Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cet épisode de Nos Ciné vous est présenté par Séance Radio, la radio 100% cinéma.
Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma, mais cette fois-ci, c'est un petit peu plus court, mais peut-être plus intense, puisqu'on fait un extra ball, oui, que parfois on parle de nos coups de cœur, et parfois nos chroniqueurs reviennent sur des petits moments de cinéma, ou même de télévision, puisque c'est le cas aujourd'hui, puisqu'on va parler de Mindhunter, la série qui vient juste de commencer sur Netflix, mais en même temps, j'ai dit commencer, mais en même temps, elle est déjà terminée, en fait, sur Netflix, c'est ça la particularité. Autour de la table, j'ai avec moi David Honorat.
Salut Daniel.
Et Anaïs Bordage.
Salut.
Monde de merde, pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
C'est une histoire de serial killer.
Un quoi?
De serial killer. Et je sais que David est chaud pour nous parler de serial killer.
Oui, bah, je vais juste un peu introduire le pitch de la série parce que moi je n'ai vu que les deux premiers épisodes. Et puis Anaïs, elle, qui a tout vu, qui binge-watch plus vite que son ombre, va pouvoir...
Elle regarde en vitesse 1.8, en fait.
Je la suspecte de faire ça. mais on voulait en parler dans nos ciné assez vite, parce que, effectivement, comme tu disais, le truc avec Netflix, c'est que tous les épisodes sont dispo d'un coup, et du coup, j'imagine, les auditeurs attendent avec impatience qu'on puisse en parler. Donc, Mindhunter, c'est une série, pour le dire vite, de David Fincher, dont il réalise les deux derniers épisodes, et qui nous permet de retrouver David Fincher qui nous manquait un petit peu, puisque depuis Gone Girl au cinéma, ça fait déjà plusieurs années, on n'avait pas trop eu l'occasion de le voir à l'œuvre. Dès le premier plan de la série, on est clairement chez David Fincher, ce qui est d'ailleurs assez plaisant. Et ce qui m'a pas mal plu, en fait, dans la découverte de cette série, donc qui raconte, ça se passe dans les années 70, juste après les meurtres de Charles Manson, qui ont un peu traumatisé l'Amérique et en particulier la police de Los Angeles. Et on va suivre un jeune agent du FBI qui est ancien négociateur. Qui est passionné par les criminal minds, on va dire, et qui essaye de réfléchir à la meilleure manière de comprendre les criminels.
C'est un profiler, en fait.
Sauf que c'est un profiler avant l'heure, c'est-à-dire avant que ça s'appelle les profilers, avant que les techniques qui emploient notamment la psychologie soient appliquées par le FBI, qui a été pionnier même dans le monde sur cette manière de travailler sur les criminels, en particulier les serial killers ce qui est exposé dans les premiers épisodes, les criminels qui n'ont pas de raison de faire ce qu'ils font, et du coup pour comprendre des gens qui n'agissent pas rationnellement, il faut pouvoir arriver à aller au-delà du rationnel, et du coup c'est une série qui est dans une ambiance de meurtre et de criminalité, mais qui est en fait une série assez bavarde, qui va en fait faire discuter ces personnages sur la meilleure manière d'aborder toutes ces questions. Et en plus, ça se passe à un moment charnière où, bah, pour le FBI, ça paraît aberrant d'aller voir des universitaires en psychologie parce que ils connaissent pas le terrain et qu'ils savent pas ce que c'est qu'un criminel, etc. Et ce personnage principal va être la cheville ouvrière de ce mouvement et va être la personne qui cherche à comprendre pourquoi. Et donc, juste pour finir cette introduction. Ce que je trouve vraiment frappant et intéressant dès le début, c'est que on est sur de la série télé, on est sur Netflix, on est à la maison, mais clairement c'est du cinéma. Ce qu'on est en train de constater de plus en plus, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de cinéma au cinéma et de plus en plus de cinéma à la télé. Ça, c'est assez frappant ici. Et ce qui me plaît énormément, c'est pour le coup, Fincher déçoit pas, c'est-à-dire que le cinéma, la mise en scène, ça s'arrête pas à réfléchir à la mise en scène sur des scènes d'action. Et un dialogue, mettre en scène correctement un dialogue et le rendre pertinent dans son découpage, dans les choix de caméra, dans les angles, dans la manière dont on va travailler les gros plans ou les plans larges, et comment on va véhiculer par l'image, par le montage, ce qui est en train de se jouer psychologiquement entre le personnage, c'est quelque chose d'absolument essentiel qui chez les grands cinéastes se fait depuis longtemps au cinéma, et à la télé il y a un certain nombre de codes anciens qui ont tendance à toujours un peu filmer au même niveau, qui bien sûr ça fait plus de 20 ans que ça évolue, et etc. Et là on est une scène de dialogue cinéma, ouais. Est passionnante rien que dans la manière dont c'est filmé.
Et dis-moi Anaïs, toi qui as tout bingé, oui. Est-ce que c'est une série de serial killers de plus? Ou est-ce que parce qu'il y en a une armada, quoi, entre les...
Il y en a beaucoup, oui.
Entre les CSI, les machins, les Dexter, est-ce que ça apporte vraiment quelque chose? Est-ce que ça vaut le coup d'aller jusqu'au bout ou pas?
Alors, je pense que ça apporte vraiment quelque chose parce que, justement, contrairement aux séries de serial killer classiques, des whodunit, où en fait, on se demande qui parmi les 10 personnages... présenté dans le pilote et le serial killer.
Tu es méchante avec True Detective.
Là, en fait, c'est pas du tout le même principe. Déjà, beaucoup de personnes m'ont demandé si ça faisait peur, m'ont dit j'ai pas envie de regarder un truc trop violent qui fait peur. Et en fait, c'est vraiment une série où les gens ne font que parler. Il n'y a pas vraiment de crime, il n'y a pas du tout de crime, je crois, montré à l'écran. Enfin, il y a des photos d'archives, mais en fait, ça se focalise vraiment sur le dialogue et sur le changement de mentalité qui s'est opéré à ce moment-là, puisque c'est basé sur un livre qui raconte vraiment les vrais entretiens qui ont eu lieu avec tous ces vrais tueurs en série et qui ont permis de réfléchir au crime différemment. Et donc c'est ça qui est vraiment intéressant et qui rajoute quelque chose, je pense, aux séries déjà existantes, c'est cette espèce de remise en contexte où en fait on se dit maintenant quand on regarde une série justement de serial killer, on a déjà tous ces systèmes de pensée en fait. On sait comment les serial killers agissent, on sait qu'ils sont irrationnels, on sait qu'ils ont souvent des problèmes avec leur mère, et en fait les personnages de la série ne savent pas tout ça parce qu'ils ont jamais vu vraiment, ils ont jamais réfléchi au crime de cette manière, et donc ils découvrent et on découvre avec eux pourquoi et comment ces tueurs en série peuvent commettre des atrocités pareilles. Donc c'est super intéressant,
donc
c'est un petit peu différent, ouais, de ce qu'on voit d'habitude.
Parce que vous rappeliez tous les deux que Fincher a réalisé le début et la fin, oui. Et que c'est adapté d'un bouquin, et en général, alors c'est pas pour jouer l'avocat du diable, mais la seconde saison en général qui arrive, puisque j'imagine qu'il y aura une seconde saison.
Oui, elle a déjà été commandée, ouais.
Est-ce qu'on ne s'expose pas à... Si. On n'y a plus assez de matos, donc du coup on va broder et ça devient Orange is the New Black, ou alors House of Cards.
House of Cards, pour moi, il y avait eu un peu ce problème, c'est-à-dire que Fincher aussi avait... réalisé les deux premiers épisodes et avait installé tout le design, l'univers visuel de la série, l'ambiance.
Les apartés.
les apartés
qui ont disparu d'ailleurs après une fois
même si à mon sens c'était pas le plus réussi et le plus intéressant dans la série, et je trouve que enfin moi j'ai même décroché à partir de la saison 2 à House of Cards où je trouvais que ça s'effondrait totalement.
C'est la débâcle. Ouais.
Le risque est là aussi clairement.
Mais en fait je sais que je suis la seule à avoir vu la série en entier, je ne vais pas spoiler, promis.
Attention.
Il y a une salle entière qui ne veut pas être spoilée.
Mais je trouve qu'en fait, on le sent déjà dans la saison 1.
Ils ont plus de matos.
Bah en fait le problème c'est que je trouve que les deux premiers épisodes moi c'est mes préférés parce qu'on rentre vraiment dans cet univers et surtout on découvre un des tueurs en série de la série qui est Ed Kemper qui est un.
Ah, c'est pas un spoil ça.
Non c'est pas un spoil qui est un mec donc qui avec qui ils font des entretiens pendant toute la série et qui est donc connu pour avoir tué pas mal de d'étudiantes et sa mère qui l'a décapité. Et ensuite, il a violé la tête de sa mère.
Mais ça, c'est juste un lundi au Japon. Hein.
La série n'est pas violente visuellement, mais elle est
voilà,
quand même.
C'est très dur dans la description de ce qui se passe. Et ce qui est très intéressant dans la série, c'est qu'on voit en fait le coût psychologique pour ces enquêteurs de se retrouver face à ces gens-là en fait, et d'essayer de rentrer dans leur tête, de comprendre comment ils fonctionnent. Mais du coup, le piège là-dedans, c'est de trop les comprendre, de se mettre à leur place. Et la série joue très intelligemment sur ça parce que nous aussi, on s'attache presque à certains de ces serial killers parce que c'est des personnages hauts en couleur, etc. Et la série à plusieurs moments nous rappelle que non, en fait, enfin, c'est quand même un mec vraiment taré, quoi. Donc là, je te le présente d'une manière assez presque attirante, quoi. Il a l'air sympa, il mange de la pizza avec eux, il fait des blagues, mais faut pas oublier que c'est quand même une personne qui a de gros soucis, quoi.
Et là, je parle juste à ton petit cœur de fan. Si on a à choisir, True Detective saison 1 ou ça?
Ouh là là.
J'ai vu qu'un épisode, c'est déjà ça. C'est trop détective. Pour moi, c'est vraiment une fausse cote absolue.
C'est ce que beaucoup de gens disent, mais il y a aussi les
pour
les
moi, lovers, trop détective, la saison 1 avait une espèce de. Il y avait une vraie satisfaction à la fin. Et j'aime beaucoup Matthew McConaughey. Et j'aimais beaucoup l'univers un peu taré créé dans Trop Détective, donc ça m'avait beaucoup plu.
Ah, t'avais été satisfaite par la fin, toi?
Ouais.
De la on va pas spoiler non plus Trop Détective.
Bon, alors, la fin de Trop Détective, j'aime autant vous dire que j'ai pas été satisfaite.
Mais non, mais pour en revenir à Mindhunter, moi, ce qui m'a dérangé, c'est que justement, c'est tiré de ce livre, et en fait, toutes les parties où ils font des entretiens avec les serial killers sont vraies, et donc ça, c'est fascinant, parce qu'on se dit, mais comment c'est possible, en fait, ces conversations ont vraiment eu lieu, c'est complètement taré. Et en fait, par contre, les deux personnages des enquêteurs sont fictifs. Ce ne sont pas les vraies personnes qui ont mené ces entretiens. Et donc, leur vie est fictive aussi. Donc, ils ont une petite amie, un fils. Et en fait, je trouve que la série se focalisait beaucoup trop sur leur vie privée. Et en fait, tous ces moments-là me perdaient. Et moi, j'avais vraiment envie de voir, en fait, le côté expérimentation et recherche, quoi. Et en fait, je m'en fous complètement de la vie sexuelle de Jonathan Groff et sa copine. Ça, c'est un peu ce qui m'a perdu, et je trouvais que ça, pour le coup, c'était vraiment pour lancer la saison 2 aussi, quoi. On sent qu'ils voulaient déjà mettre en place des dynamiques qui servent à rien, quoi.
Ah, David, tu entends la musique, c'est alors, comme les Oscars.
On m'en refait le coup des Oscars. Alors là, j'en reviens plus. Hein. Non, je voulais juste ajouter un truc, du coup.
Vas-y, balance.
Le mec rebelle aux Oscars qui reste sur scène, après la musique continue et tout, c'est super chiant.
Il faut sauver les dauphins, lève ton poing. Vas-y.
Non, je voulais juste dire un petit mot. Tout à l'heure, on évoquait le côté de la violence en filigrame qui apparaît dans les entretiens et pas forcément visuellement. Et ça me permettait de dire un petit mot sur le générique. Tous les génériques des films de Fincher sont souvent hyper stylisés, hyper intéressants. Et là, il y a un générique assez beau qui fait des plans, des gros plans sur un magnétophone et qui intercale de manière presque subliminale des images macabres. Et c'est un beau générique. Voilà.
Ouais. Bah écoute, c'est noté.
Celui de Seven était mieux. Hein.
On remercie Jules à la technique, qui est le maître de la musique que vous entendez en ce moment. On remercie aussi le public du Bar à Bulles qui est venu en nombre. Et merci les gars. Et merci à vous deux. Et on vous dit à très bientôt sur nos ciné. On vous embrasse très fort. Ciao.
Bonjour, c'est Betty Mourao et on se retrouve tous les jours sur Séance Radio pour la séance live. l'actu ciné, le coup de cœur des blogueurs, les invités cinéma. Eh bien, le meilleur de l'émission est disponible tous les jours en podcast sur iTunes, sur SoundCloud, sur tous les autres agrégateurs et bien sûr sur le site de Séance Radio, à partager à volonté.